Cool Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Bienvenue dans cette nouvelle émission de Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues sur la santé mentale. Et ce mois-ci, une émission que je suis très heureux de présenter, qui parle d'un sujet qui s'appelle le PSSM. On va vous expliquer dans un instant de quoi il s'agit.
Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN.
Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
PSSM, un acronyme pour tout un vaste sujet qu'on va traiter ensemble ce matin dans l'émission. Pour le faire et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'abord de vous présenter, d'accueillir David. Bonjour David.
Bonjour.
David qui est travailleur social à Espoir 54 et vous êtes également formateur en PSSM.
C'est ça.
Je le rappelle, on va dire dans un instant de quoi il s'agit. Et puis pour nous accompagner, comme chaque fois, on a le plaisir d'accueillir Marie-Paul. Bonjour Marie-Paul Pierrel.
Bonjour
vous,
Thomas.
Vous êtes présidente de l'association Bipolaire, si tu savais.
C'est ça.
Et puis à nos côtés également Solène, une grande première pour Solène du CREPSI. C'est bien
oui.
ça.
Oui, oui, je coordonne le CREPSI pour l'antenne Lorraine.
On va rappeler ce que c'est le CREPSI, simplement.
Le Centre Ressources Handicap Psychique.
Voilà, tout est dit. Et je le disais, donc ce matin, on va parler du PSSM, tout un acronyme. Qui veut nous dire ce que signifie cet acronyme?
Ça veut dire premier secours en santé mentale.
Voilà, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, le premier secours en santé mentale, c'est l'équivalent en santé mentale du diplôme de premier secours, tout simplement.
Croix-Rouge, voilà.
Voilà, de la Croix-Rouge.
Même la formation est parallèle, c'est une formation courte
ouais.
qui s'adresse à monsieur tout le monde et il n'y a absolument pas besoin d'avoir déjà une formation dans ce domaine-là pour faire la formation, que s'il s'agit juste d'aider... dans l'urgence. Quoi.
Eh ben, on va en parler. Hein. On a une heure, effectivement, pour aborder ce sujet. Et vous le savez, comme chaque mois, avant de parler de la thématique, on écoute ce que les gens pensent ou savoir du sujet qu'on aborde dans la rue. Donc, on est allé faire un micro-trottoir. La première question qui a été posée, c'était, Solène, tu peux peut-être nous le dire.
Avez-vous entendu parler de la formation Premier Secours en santé mentale?
Non, premier secours, mais pas forcément en santé mentale, non. Personnellement, non. Toi non plus?
Non plus, non, j'ai jamais entendu parler.
Premier secours, oui, en santé mentale, non.
Pour être de formation infirmière, formation initiale, je pense que, on a toujours eu à secourir, effectivement, même des personnes qui n'avaient pas un problème physique, hein, qui manifestement montraient des troubles mentaux. Donc, ça fait partie de la santé publique, hein, complètement. Oui.
Non, pas du tout, non.
Bon, alors je vais vous demander de réagir à ce qu'on vient d'entendre, mais globalement, j'ai l'impression que c'est pas hyper connu quand même.
Effectivement, la quasi-totalité des personnes interrogées n'ont pas connaissance de premier secours en santé mentale. Néanmoins, une personne de formation infirmière évoque la nécessité de se pencher sur la question de la santé mentale et qu'elle-même, professionnellement, a dû finalement s'occuper, entre guillemets, des patients rencontrés et... On entend un petit peu qu'elle a dû bricoler.
Oui, c'est ça, on entend, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Elle a bricolé, c'est-à-dire qu'elle a une idée, mais elle n'a pas vraiment appris, quoi.
C'est ça. Donc, on voit qu'un manque, en tout cas, apparaît. Et puis, en tout cas, ce n'est pas une problématique nouvelle. La question de la santé mentale est stigmatisée depuis au moins l'Antiquité. On le sait, on a des traces de cela. Et encore aujourd'hui, la question de la déstigmatisation se pose. Et PSSM propose, entre autres, aussi de déstigmatiser les questions de santé mentale.
On va évidemment en parler. Ça vous surprend, David, que les gens ne connaissent pas le premier secours en santé mentale, qu'ils aient l'impression que... Enfin, voilà, on a l'impression que c'est quelque chose qui leur passe complètement au-dessus.
Ouais. Alors non, ça ne me surprend pas du tout. On en parlait juste avant, en plus, avec Marie-Paul. C'est une formation aussi qui est assez récente, hein, qui est arrivée en France en 2018. Quand on a commencé à en parler en 2018... Tout le monde sait que voilà, 2019-2020, avec le Covid, ça a aussi reculé. Donc non, comparé aux premiers secours en santé physique, qui sont par la Croix-Rouge, qui sont assez anciens et assez connus, finalement non, ça ne m'étonne pas vraiment.
Bon, on va écouter maintenant la suite des micro-trottoirs réalisés. Marie-Paul, vous vouliez peut-être réagir ou vous n'êtes pas surprise non plus?
Tout à fait d'accord avec David.
La suite du micro-trottoir, la deuxième question qu'on a posée aux gens dans la rue, Solène, c'était...
Oui. Comment peut-on s'engager, s'investir pour la santé mentale?
Ouais, quand même, sur les réseaux, on en entend beaucoup parler, mais je sais pas comment s'engager directement pour la cause.
Vaste débat, parce que, je veux dire, les prises en charge publiques sont, on va dire, en récession. On a démantelé l'hôpital psychiatrique, on a démantelé tout ce qui était consultation. Donc il y a un gros travail, un gros chantier à remettre en place. Quoi.
Ah, vaste question. Je voudrais dire déjà de parler déjà avec les individus, communiquer autrement que sur son téléphone peut-être. C'est peut-être ça, je sais pas.
Je partage assez ton avis, effectivement.
Parce qu'aujourd'hui dans la rue, vous voyez, là, ça va parce qu'on est tous d'une moyenne d'âge assez élevée, donc on regarde encore devant nous, mais quand on voit beaucoup de... J'ai rien contre les jeunes, mais on les voit, ils sont quand même un petit peu tous comme ça.
En faisant des formations, de temps en temps, pas sans obligatoire, mais les mettre pour des collèges, des lycées, pour mettre plus en avant certaines choses qui sont pas assez mises en avant. Okay. Pour ce que c'est.
Oh, je pense que oui, on peut aider les personnes dans la vie de tous les jours à voir qui se sent bien, qui se sent pas bien, et finalement, si nous on n'a pas ce genre de problème, essayer de convertir cette énergie et aider les gens derrière.
Okay. Ça, c'est l'idée, c'est d'inclure tout le monde dans tout ce qui est possible de faire, puis essayer vraiment de respecter chacun, puis ouais, ça passe à l'idée, je pense. Pour ça.
Ah, on en entend des choses là dans ce micro-trottoir. Globalement, on a l'impression qu'il y a quand même une envie d'aider, que c'est une façon peut-être de, mais voilà, on a aussi entendu plein d'informations. Solène, qu'est-ce qu'on retient de ce micro-trottoir ?
Oui, ben, on entend qu'un début de sensibilisation s'effectue via les réseaux sociaux. Mmh. Apparaît les besoins de communication, de relations à l'autre. On entend aussi au travers des réponses des valeurs qui émergent, hein, le soutien, le respect, peut-être la solidarité, le fait de pouvoir aller vers, en tout cas d'avoir peut-être une démarche citoyenne. On voit bien que les gens ne savent pas comment mettre en place, en tout cas, cet investissement possible en lien avec leurs besoins, leurs valeurs. Et puis, couplé, apparaît aussi cette notion d'intérêt commun. Hein, ouais. Il faut inclure tout le monde. Donc, voilà. Donc, on a quelques bribes. Que finalement, cette formation de PSSM nous permet finalement de porter et de mettre en avant.
Oui, on va évidemment en reparler, on va revoir ensemble tout l'aspect formation dans quelques instants, parce que c'est d'abord et avant tout une formation, le premier secours en santé mentale. L'autre question qu'on a posée dans la rue, oui. Solène.
Quel est l'intérêt de devenir secouriste en santé mentale ?
C'est les opportunités de venir en aide aux gens, quoi. Donc, je veux dire, moi, quand je me promène dans Nancy, il suffit de discuter avec les gens, on voit que ça leur fait du bien, quoi. Donc, non. Moi, je crois qu'il y a le brevet de secours qu'on fait passer dans les collèges et des choses comme ça. Les jeunes en ont besoin. Je veux dire, là aussi, il faudrait que l'éducation nationale sensibilise les jeunes au lieu d'être sur Internet, sur leur téléphone, qu'ils apprennent à se parler, quoi.
Je pense qu'honnêtement, il y a un intérêt, comme tout. Tout le monde doit savoir plus ou moins gérer certaines situations ou autres, que ce soit pour le premier secours, pour la santé mentale ou autre. Donc en psychologie ou physique ou autre.
L'éducation nationale, ça revient un peu hein, quand même à cette notion de peut-être apprendre aux plus jeunes et dès le plus jeune âge, effectivement, ce secours en santé mentale. Solène, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on vient d'entendre
Que les personnes perçoivent bien finalement cet enjeu éducatif, d'éduquer à la santé mentale. Et au-delà de cela, donc pour soi-même, et d'éduquer aussi peut-être à certaines pratiques, pouvoir outiller les personnes à aller vers d'autres, aller vers ses pairs éventuellement, pour soutenir quand ça ne va pas. Donc c'est ce qui ressort majoritairement. Après, on a beaucoup entendu cette histoire de la question générationnelle.
Ouais.
Néanmoins, nous savons aujourd'hui que les plus jeunes comme les plus âgés, la question de la stigmatisation de la santé mentale et de pouvoir outiller les personnes, elle touche aussi bien les plus jeunes que les personnes les plus âgées. Et puis la question des téléphones
qui revient. Hein.
Alors qu'aujourd'hui... À voir, hein, on peut continuer à méditer là-dessus, mais à la fois c'est un vecteur de sensibilisation et puis toujours cette question de savoir comment on les utilise, ce qui est diffusé et en pratique ou concrètement, comment on peut permettre en tout cas l'accès à la santé mentale via ces réseaux sociaux ou pas, je ne sais pas, à voir, à méditer.
Et ben, je pense qu'on va en échanger dans l'heure qui vient, puisque je rappelle que ce matin, on parle de cet intérêt d'être formé au premier secours en santé mentale. C'est la thématique qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui. Je vous propose d'écouter un premier morceau. Je crois que c'est vous, David, qui l'avez choisi. Pourquoi ? Et alors, dites-nous, parce que alors, quand on vous a proposé de choisir un morceau, vous nous avez dit tout de suite Charlie XCX, on y va. Pourquoi ce choix-là ?
Et ben en fait, c'est ce que j'ai écouté dans la voiture en venant. Et du coup, voilà, j'ai décidé que c'était le thème de la journée.
Et ben, c'est très très bien, on écoute Charlie XCX maintenant sur RCN.
Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et aujourd'hui, on parle d'un sujet alors qu'on a souvent évoqué dans cette émission depuis maintenant 3 ans, sans vraiment expliquer ce que c'était le premier secours en santé mentale ou appelé également PSSM. C'est quelque chose d'assez nouveau, David nous le disait tout à l'heure quand on écoutait les réactions des gens dans la rue. C'est quelque chose qui date de 2018.
Oui.
Pourtant, c'est pas quelque chose de si nouveau que ça dans le monde, le PSSM, Marie-Paul.
Eh ben, c'est un programme qui est arrivé en France en 2018, qui vient d'Australie. En Australie, ça remonte à l'année 2000. C'est une personne éducatrice qui elle-même souffrait de dépression et qui s'est rendue compte qu'il y avait peu d'aide pour la soutenir comme ça, de façon informelle. Voilà. Et donc, avec un professeur de médecine, ils ont mis au point cette formation qui s'adresse à monsieur tout le monde, sans aucune formation au départ, dans le domaine de la santé mentale. Alors, il faut dire que ce programme répond à un besoin vraiment très important dans la population, parce que, donner des chiffres, une personne sur 5 est touchée chaque année par un trouble psychique.
Oui, donc
en France,
c'est important. Ouais,
ça représente 13 millions de personnes.
Oui, c'est pas rien, voilà. C'est pas négligeable.
Donc, c'est un problème réel.
Je voudrais rebondir sur ce que vous dites à l'instant. Quand on va s'engager dans cette formation, parce que c'est bien une formation dont on parle, de premier secours en santé mentale, c'est important ce que vous dites, je trouve. On n'est pas obligé de connaître la santé mentale en général. Enfin, il faut pas être un professionnel pour pouvoir s'engager en PSSM.
En fait, cette formation répond aux besoins de quelqu'un qui se rend compte que dans son entourage, il y a une personne chez qui manifestement, il y a quelque chose tout d'un coup qui a l'air de ne pas aller, mais qui ne sait pas comment aller vers la personne, comment lui parler, et puis qu'est-ce que je peux faire pour lui aussi. Tout ça, il y a des gens qui savent le faire de façon spontanée, qui ont de l'empathie, qui savent établir le contact. Et voilà. Mais sinon, comment faire pour parler à un collègue ou à quelqu'un de la famille et lui faire parler de ces choses vraiment très personnelles. Voilà. Donc, la formation PSSM permet d'apprendre. Il y a beaucoup d'exercices pratiques dans cette formation. On apprend
on va en parler avec David tout à l'heure, mais
approcher la personne et à parler de ça et voir ce qu'on peut faire pour elle. Alors, comme on venait de le dire, il ne s'agit pas du tout de poser un diagnostic et de savoir comment ça s'appelle le mal-être.
Oui, voilà, ça c'est important de le dire. C'est ça, on n'est pas venu d'être un expert en psychologie
du tout,
ou quoi.
Du tout, non. Mais voilà, dire je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que je peux aider, est-ce que tu sais qu'il y a des ressources. Enfin,
on va en parler après.
On redonnera des exemples là-dessus. Donc c'est une formation généraliste qui s'adresse à tout le monde, de sensibilisation et d'assistance à quelqu'un qui va pas très bien. N'importe qui peut devenir secouriste, de quelque âge, profession, formation, que ce soit. Il s'agit d'apprendre à aider. Voilà, c'est le slogan de PSSM.
Ce qu'on entendait d'ailleurs dans les gens qui parlaient de... Tout à l'heure, on leur demandait dans la rue, sur le premier secours en santé mentale, ce qu'ils en pensaient. On entend beaucoup cette notion d'aider. Simplement, on va aider, mais avec un cadre, c'est ça,
Voilà, c'est très cadré, oui. Parce qu'on ne peut pas se permettre de donner des conseils médicaux. C'est pas du tout le but. Voilà. Donc,
mais un peu comme le secourisme en santé physique, c'est pareil. On ne dit pas à une personne qu'elle fait un infarctus. On va l'aider simplement le temps que les pompiers interviennent, quoi.
Voilà. Et donc, il y a deux programmes un petit peu parallèles. Il y a la formation standard qui s'adresse à tout le monde. Et il y a une formation spécifique pour les personnes qui sont en contact avec des jeunes. Il y a différents programmes de formation. Et en France, la première formation qui a été mise en place, le premier programme, c'est le programme généraliste. Et le deuxième, c'est le programme pour les gens qui sont en contact avec des jeunes. Donc ça intéresse beaucoup les personnes qui sont, par exemple, dans l'éducation nationale, qui ont des élèves ou des grands ados, ou chez qui ils voient bien qu'il y a un petit souci, le jeune homme du fond de la classe, là, qui ne s'exprime pas trop, mais comment faire à l'interclasse pour aller l'interpeller devant tous les copains, tout ça, c'est vraiment pas possible. Donc, quelles sont les stratégies qui peuvent être utilisées pour l'aider. Voilà.
Donc on précise, ce sont des programmes, ça veut dire que ce sont bien des formations, on y accède, tout le monde peut y accéder du coup, et auprès de qui, comment ça se passe?
Alors, on peut déjà aller tout simplement sur le site de PSSM France, on tape pssm.fr, et là on a toutes les explications sur les démarches à accomplir. Il y a une liste de formateurs régionaux, enfin classé par région, donc ensuite on peut les contacter directement, savoir quand a lieu la prochaine formation, à quel endroit, comment s'inscrire.
Je vais vous poser une question, Marie-Paul, mais tout à l'heure on entendait quelqu'un qui disait les prises en charge publiques sont en récession, on démantèle l'hôpital psychiatrique. Est-ce que pour autant ça veut dire que c'est l'hôpital psychiatrique qui doit jouer ce rôle, ou est-ce que, vous l'avez dit, mais je veux qu'on le répète, est-ce que ça concerne tout le monde?
Ça concerne tout le monde. Oui, tout à fait. Et ça, aussi bien des gens qui sont déjà de toute façon dans ce domaine-là, qui sont infirmiers ou psychologues, qu'un boulanger ou un libraire. Voilà.
Et on ne se substitue pas à l'hôpital psychiatrique, du coup?
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est complémentaire. Au contraire, on peut simplement encourager quelqu'un à aller frapper à la porte
d'un
professionnel. Parce qu'il y a l'auto-stigmatisation que vous avez mentionné tout à l'heure. Les gens n'osent pas dire que ça ne va pas. Et déjà, peut-être il y a un flou dans leur tête sur ce que fait exactement un psychiatre, quelle est la différence avec un psychologue, est-ce que vraiment j'ai besoin d'aller le voir, je ne suis quand même pas fou.
Oui, mais surtout que si je puis me permettre, on va raconter les choses telles qu'elles sont, mais j'ai suivi cette formation, donc il s'avère que j'ai le plaisir de savoir de quoi il s'agit. On ne traite pas que des gens qui souffrent de troubles psychiques. quand on parle de PSSM, c'est pas forcément des, on va pas uniquement aller vers des gens qui souffrent d'une bipolarité ou d'une schizophrénie. En fait, ça concerne tous les troubles psychiques, plutôt tout ce qui concerne santé mentale. D'ailleurs, c'est beaucoup plus large que ça.
Oui, parce qu'un trouble psychique, c'est une maladie.
C'est ça.
Donc c'est une autre problématique. Mais oui, on peut avoir en face de soi une personne qui temporairement traverse une période difficile de sa vie et aura besoin d'aide à ce moment-là pour la traverser et en sortir.
Ce qu'on appelle la petite déprime, quoi, qui dure un petit peu.
Ne pas confondre avec dépression.
Justement,
oui, ouais. La déprime, c'est plus court. Oui. On apprend lors de la formation de secouriste à distinguer ce qui, à partir de quel moment, véritablement, on entre dans un cas peut-être de trouble psychique. Alors le secouriste n'a pas du tout à faire ce type de diagnostic, mais c'est juste pour faire comprendre qu'il y a différents...
Oui, différentes, et différentes manifestations des situations de qui permettent d'alerter.
Voilà.
Je vais me tourner vers vous, David, sauf si vous avez des choses à rajouter, Marie-Paul, sur un peu l'histoire. Peut-être qu'on peut quand même préciser le nombre de secouristes aujourd'hui, parce que il y a quand même un enjeu. Hein,
si
sur
vous
le...
avez des chiffres, j'en ai quelques-uns.
Alors, je veux bien quelques chiffres, parce qu'on le disait, donc, c'est arrivé en 2018 en France. Aujourd'hui, le premier secours en santé physique, presque tout le monde se forme aujourd'hui. Le premier secours en santé mentale, c'est combien de secouristes aujourd'hui et c'est quoi l'objectif ?
Alors, dans le monde, aujourd'hui, il y a 7 millions de secouristes.
7 millions ?
7 millions de secouristes dans le monde entier.
Dans le monde entier.
Voilà. C'est parti d'Australie en l'an 2000. Et aujourd'hui, ça a passé les frontières de l'Australie. Et il y a 29 pays dans le monde qui ont importé cette méthode, voilà. cette formation. Alors, en France, comme vous le disiez, c'est arrivé en 2018. Et à présent, il y a en France 180 550 secouristes formés.
On peut dire que c'est rien.
Sachant que les formations sont limitées à des groupes restreints de 16 personnes, vous pouvez imaginer le nombre de formations. Mais c'est un développement exponentiel, hein, forcément, puisque le secouriste peut ensuite devenir lui-même formateur de secouriste. Donc voilà, former de plus en plus de personnes. Et l'objectif est d'arriver d'ici à 2030, donc on est en 2025, à 750 000 secouristes en France.
Ah oui, ça demande encore une augmentation exponentielle. Exponentielle, quoi. Il faut y aller là. C'est important qu'il y ait beaucoup de gens qui soient formés aujourd'hui, eu égard au contexte ou pas, Marie-Paul. Est-ce que, je vous pose la question à vous trois, mais est-ce qu'il y a plus besoin aujourd'hui qu'avant de d'avoir des gens formés à ce secourisme, à cette forme de secourisme-là ?
Je pense pas. Enfin, ça, c'est vous me demandez mon avis personnel.
Oui, bien sûr,
pense que c'est juste une question de prise de conscience et de connaissance générale de la question. Mais il y a toujours eu des contextes internationaux, politiques, économiques difficiles qui font que l'ambiance est quand même pas toujours très encourageante non plus et facilite des états dépressifs ou le manque, le découragement. Donc mais bon, c'est effectivement très, très important.
Oui, c'est la question plutôt de l'évolution des représentations par rapport à la santé mentale et au moment de voilà où à la souffrance psychique et qui peut aller jusqu'à des troubles. Et finalement, premier secours en santé mentale concourt à l'évolution de ces représentations. On est plutôt là sur. Dans une dimension où tout le monde, on permet à chacun de pouvoir se saisir de cette question-là, qu'elle n'appartienne plus qu'aux professionnels, que ça soit complémentaire et qu'on porte ceci dans des valeurs, juste dans des valeurs humaines. Et puis, ça a un enjeu pour la question du soin, puisque premier secours en santé mentale, c'est aussi faire avancer la question de ce qu'on appelle l'intervention précoce et de la prévention. Donc, c'est-à-dire que plus il y aura de secouristes, plus on peut faire le pari que les personnes vont aller plus aisément vers les professionnels de santé qui leur convient, qu'on va pouvoir être pris en charge peut-être plus tôt et donc que les troubles ne vont pas se chroniciser et qu'on va pouvoir peut-être éviter aussi les situations de handicap psychique.
Oui, parce qu'il y a un certain nombre de troubles de santé mentale, d'ailleurs plus précisément, qui, s'ils sont pris très tôt, peuvent très vite être, on ne dit pas guéri, mais rétabli, hein, c'est ça.
Oui, bien sûr, plus l'intervention est précoce, plus la personne dispose des ressources nécessaires, plus elle va avoir la possibilité d'entrer dans son processus de rétablissement rapidement, et puis pouvoir s'en saisir et se rétablir comme elle le souhaite.
Et puis pour un certain nombre de troubles, d'éviter d'aller dans l'état de psychose, en fait. C'est ça, d'essayer d'aller avant.
On n'est pas, enfin moi je suis pas, ouais. je suis pas soignante, mais effectivement sur les troubles du spectre, par exemple de la schizophrénie, on sait en intervention précoce que si une prise en charge arrive tôt, ça peut permettre d'éviter d'autres crises psychotiques qui vont causer en tout cas des pertes de compétences faire que la personne ne va pas pouvoir acquérir de compétences et va ralentir un peu le rétablissement.
Et puis aussi, freine, essayer d'éviter que la situation se complexifie en rajoutant des comorbidités, c'est-à-dire d'autres problèmes de santé, comme par exemple des addictions.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc plus on intervient rapidement, plus on est alerté, et plus c'est...
Oui, on comprend qu'il y a un enjeu véritablement à pouvoir être nombreux à aider à, non pas à diagnostiquer, mais à détecter pour pouvoir envoyer vers des professionnels. C'est vraiment là le sens profond du premier secours en santé mentale. Si je résume, c'est ça. Je vous propose, dans un instant, on va parler plus en détail de ce qu'on apprend dans le premier secours en santé mentale et de toutes les situations qu'on peut essayer de détecter avec vous, David, parce que vous êtes formateur. Ça fait combien de temps que vous formez au premier secours en santé mentale?
Je me tourne vers Marie-Paul, parce que c'est elle qui m'a formé. Ça fait 4 ans déjà.
4 ans. Donc 4 ans que vous formez effectivement des groupes sur ce premier secours en santé mentale. Donc vous avez une belle expérience. Et dans un instant, vous allez nous expliquer un petit peu plus comment ça se passe. Mais avant, puisqu'on enregistre cette émission le 24 février, je le précise, jour anniversaire de Solène. Solène, on t'a proposé de choisir un titre. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter?
Isaac Delusion, Isabella.
Et pourquoi ce titre? C'est ce que t'aimes bien en ce moment?
C'est ce que j'écoute en ce moment, et puis il met dans un mood assez cool, coup, et détendu, et c'est le cas ce matin.
Eh ben, on partage ce petit moment cool et détendu autour du premier secours en santé mentale avec Isaac Delusion.
Such a thrilling night, and she's turning round, barefoot in the sand. She locked up her heart in a cell, only she's got in, and got rid of the keys. Penalty.
À 11h, Full Santé Mentale sur RCN.
Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et un acronyme ce matin, mais qui en dit long, le PSSM, Premier Secours en Santé Mentale. David, je rappelle que vous êtes travailleur social chez Espoir 54 et que depuis 4 ans, vous êtes formateur de ce brevet de secourisme en santé mentale. Si j'essaie un peu de résumer, de faire un parallèle avec le secourisme en santé physique. D'abord, on est ravis de vous avoir avec nous parce que vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu plus maintenant ce qu'est cette formation. On a expliqué pourquoi elle était importante, mais comment ça se passe concrètement une formation PSSM ?
D'accord. Du coup, ça se passe sur 2 jours, donc 4 demi-journées. En fait, on va venir aborder dans un premier temps, de manière assez générique, la santé mentale. Qu'est-ce que la santé mentale ? On en a tous une. Et finalement, voilà, qu'est-ce que ça vient dire de nous ? Il y a des moments de notre vie où ça va très très bien. Des événements heureux et des événements de notre vie où finalement personne n'y échappe, une séparation, un deuil, etc. Où là, en effet, ça va moins bien.
Voire même, on voit que dans certaines situations, tout va bien, puis un jour, ça va pas bien, sans qu'il y ait forcément de raison. Mais il faut quand même connaître les signes, en fait.
C'est ça.
D'où l'intérêt d'aborder un peu le spectre de tout ce qui va de la santé mentale.
C'est ça. De parler, en fait, plus sincèrement d'émotion. De dire, en fait, toute émotion... c'est ok d'être triste, c'est ok d'être heureux, d'être en colère. Le tout, c'est de pouvoir traverser cette émotion-là et finalement de l'accepter. C'est se dire, vous venez de vivre une séparation, en effet, c'est difficile. On a souvent besoin de soutien de nos proches, etc. On a tous des petites techniques finalement pour se ressourcer. On parlait de musique juste avant, mais chacun va avoir ses propres techniques pour se ressourcer. Et finalement, on va revenir à un état plutôt satisfaisant.
Oui, parce qu'on rappelle que la santé mentale, c'est finalement qu'un équilibre.
C'est ça. Ce qu'ils disent dans la formation, c'est un continuum finalement. On tend toujours à trouver un équilibre. Si ça va moins bien, accepter d'aller moins bien,
voilà.
Pour revenir finalement quelque chose de plus équilibré, de plus satisfaisant. Et donc ça, on fonctionne tous comme ça. Tout être humain fonctionne comme ça. Et par la suite, dans la formation, on va explorer 4 familles de troubles. Donc on va parler des troubles dépressifs, des troubles liés à l'anxiété, des troubles liés à l'utilisation de substances et le trouble psychotique.
Alors, là, on entend dans ce que vous dites que globalement, quand vous parlez de troubles d'anxiété, de troubles dépressifs, on est quand même sur quelque chose que tout le monde rencontre, quasiment rencontrera un jour dans sa vie. On connaît tous du monde et on a tous déjà passé par des situations. On se dit, je me demande si je suis pas en train de faire une petite déprime, quoi, ou une petite Donc ça concerne vraiment tout le monde.
Ouais. Alors ça a bien différencié entre avoir de l'anxiété, être inquiet, avoir peur. Tout le monde connaît cette émotion.
C'est ce petit déséquilibre, ce qu'on disait.
On va dire la différence est là où finalement on va avoir un peu plus l'œil, c'est quand ça commence à s'installer.
C'est
toujours une question de durée. C'est ok d'avoir peur et d'un moment de pouvoir trouver des ressources pour ne plus avoir peur, pour se mettre en sécurité. Par contre, si en effet la peur commence à s'installer et venir un peu nuire à notre quotidien, c'est finalement avant je pouvais sortir facilement, avant je pouvais aller faire mes courses et au fur et à mesure, peut-être lié à un événement de vie ou pas, j'observe que j'ai plus de difficultés à sortir, à pouvoir voir mes amis, donc je commence à annuler et ça commence à s'installer et à perdurer dans le temps. Et c'est vraiment cette notion de temps à chaque fois qui va être important. C'est plus ça s'installe dans le temps, plus en effet, encore une fois, on ne fait pas de diagnostic, mais plus en effet, on va pas plus s'inquiéter, mais en tout cas se dire quelque chose est en train de se passer et de s'installer. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça redevienne plus satisfaisant pour la personne.
Mais ça, c'est... Ah oui, parce que là, il y a le point de vue de la personne qui a ce déséquilibre, clairement, mais il y a le point de vue de la personne qui va... Donc le secouriste, en fait, qui va devoir essayer de lire...
C'est ça.
La personne qu'elle a en face d'elle et de se dire, tiens, là, c'est peut-être le moment où je dois intervenir.
Oui, c'est ça. Après, comme on dit, au niveau de l'écoute, de l'empathie, c'est des compétences qui sont liées à l'être humain.
Il ne faut
pas forcément être professionnel, comme on disait tout à l'heure. Pas obligé d'être psychiatre et psychologue pour avoir de l'empathie. C'est une capacité d'écoute. Ça, tout être humain là. Et c'est se dire simplement, on a tous dans notre entourage eu des amis ou des proches où finalement, on observe qu'à un moment... C'est moins habituel, ils ont un comportement peut-être un peu différent. Alors peut-être parce qu'ils ont rencontré quelqu'un et que c'est très bien et que du coup c'est satisfaisant pour eux. Ou peut-être d'autres choses. Et l'intérêt en fait, c'est se dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute.
Ouais.
Si on vient à se poser la question, c'est que finalement on a observé quelque chose et qu'il faut se faire suffisamment confiance pour aller vérifier. Et pour aller vérifier, alors pour pas que ça soit trop intrusif, en te disant tu déprimes en ce moment ou t'arrêtes pas d'être inquiet, t'es bizarre. Où ça pourrait être très intrusif, surtout quand on va pas bien. Placez-vous vraiment dans l'esprit de quelqu'un qui va moins bien, qui a pas forcément envie de trop partager parce que la personne va être un peu à fleur de peau. Le tu-tu-tu, ça marche pas trop.
Bien sûr, ouais.
Souvent partir de soi. C'est, tiens, en ce moment, j'ai l'impression que ça va moins bien. Et peut-être en énumérant, je te voyais peut-être plus souriant un moment. C'est vrai que ça fait quelques temps que je me pose la question et en fait, je m'inquiète pour toi.
Oui, c'est très important ça, le « je m'inquiète pour toi ». Toute la formation, encore une fois, j'ai eu la chance de la pratiquer. C'est quelque chose, c'est pratiquement la clé d'entrée, le « je m'inquiète pour toi ».
Parce que personne viendra... Alors c'est sûr si on va dire « tiens Solène, t'es triste en ce moment, tu tires la gueule, etc. », automatiquement, c'est assez intrusif et elle va... plutôt avoir un mouvement de recul.
Puis naturellement, c'est le question, quand on vous dit tu, on dit non.
Oui, c'est assez intrusif et c'est. Intrusif, on a l'impression un peu d'accuser. On poserait un diagnostic. Alors que finalement, je dis, Solène, j'ai l'impression qu'en ce moment, ce que j'observe chez toi, on se connaît depuis un certain temps, elle le prendra moins comme une attaque et plus comme quelque chose. Finalement, je vais lui dire, en gros, essaie de me rassurer. Est-ce que tu peux me rassurer sur son état? Peut-être que ça permettra de dire, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai peut-être un petit coup de mou, mais. Je vais me reprendre, je sais que ce week-end, je vais me reposer, je vais regarder un film, on a tous des ressources un peu comme ça. Ou soit ça va pouvoir permettre de dire, en ce moment...
Ça va pas du tout.
Ça va pas du tout. Et finalement, ça permet à la personne vraiment de pouvoir se libérer en termes de parole, se dire, finalement, on va lui offrir un espace de parole qui va permettre à la personne de pouvoir un peu déverser, un peu dans l'expression vider son sac peut-être, et se sentir aussi soutenu.
Vous avez mis le pied dans quelque chose là, David, en nous parlant de ça, mais il y a une méthode dans le premier secours en santé mentale. Finalement, ce que vous nous dites, c'est, je vais utiliser la première lettre de l'acronyme, c'est le A, quoi, globalement.
Oui, c'est approcher.
Approcher, finalement. Parce que le premier secours en santé mentale tourne autour d'un principe qui est aérer. C'est ça,
c'est ça, oui.
Et chaque lettre de A et R signifie quelque chose, signifie une démarche, signifie un processus de d'échange, de dialogue, de discussion pour essayer d'accompagner vers une solution.
Ça va permettre finalement la méthode ARE d'avoir une méthode un peu commune, et ce qui vient sécuriser aussi le secourisme, parce que comme disait Solène, beaucoup de gens, je pense dans notre entourage ou autre, ont de très très belles valeurs humaines et finalement ont de l'intérêt pour l'autre, voir souffrir les autres, enfin, voilà, ça crée aussi de la souffrance et tout le monde finalement se dire bah, j'étais là mais j'ai rien fait, j'étais là et qu'est-ce que je peux faire, et ça vient aussi répondre à ça. Ça permet de donner un cadre plus sécurisant pour la personne, parce que souvent nous dans les gens qu'on va former, il y a déjà des gens qui sont déjà intervenus auprès de leurs proches, mais avec un peu cette culpabilité de dire bah, je sais pas si j'ai bien fait, est-ce que ça se trouve j'ai peut-être fait plus de mal qu'autre chose, et finalement cette méthode et cette formation vient un peu rassurer, donner un cadre sécurisant et pour la personne qu'on va pouvoir aider et pour la personne qui va être aidante. Et donc, en effet, cet acronyme ARE, ça permet de, hein, c'est approcher, évaluer et finalement intervenir en cas de crise. Et si, en effet, il n'y a pas de crise, on va dérouler le reste, finalement, de la méthode, sans forcément respecter l'ordre, hein, qui va être...
Oui, mais c'est bien de se souvenir quand même qu'il y a des différentes étapes, qu'on peut revenir sur l'une ou sur l'autre, mais qu'elles restent importantes.
Elles restent importantes.
On peut peut-être juste dérouler complètement cette méthodo ARE, du coup. Est-ce que vous voulez bien nous dire plus précisément... Alors, encore une fois, le but de cette émission, c'est pas de vous former, c'est plutôt de vous accompagner à aller vers cette formation. Mais peut-être donner un petit peu la signification de cet acronyme.
Ouais. Donc, le A, ce qu'on disait, c'est approcher la personne, évaluer et assister en cas de crise. Donc, est-ce que dans la formation, on va voir plusieurs situations de crise où là, vraiment, en termes de discussion, ça va être compliqué. La personne est en crise. On voit les intentions suicidaires, on voit la crise, l'attaque de panique. On va voir la crise psychotique. On va voir la personne qui va être intoxiquée à l'alcool. Et là, en effet, concrètement, Il faut intervenir. Et le but là du secourir, c'est de pouvoir alerter finalement vers des professionnels du coup compétents pour finalement accompagner la personne par la suite. Donc après, il y a le E, donc hein, écouter activement et sans jugement.
Alors le sans jugement, je pense qu'il est extrêmement important.
C'est ça. Souvent, la personne a déjà des difficultés à pouvoir parler de soi. Parler de ses émotions, c'est quelque chose de très intime. Et en effet, si on commence à venir un peu mettre du rationnel là-dedans. Et c'est souvent ce qu'on fait, finalement, parce qu'on veut rassurer l'autre.
Et puis se rassurer soi-même aussi.
Et se rassurer soi en disant « Mais non, n'aie pas peur, ne pleure pas, ça va aller. » Alors, ça part d'une bonne intention.
Oui, mais c'est un déni, quelque part.
C'est ça, parce que finalement, c'est difficile. Et la personne adorerait aller mieux.
Comme si on minimisait ce qu'elle ressent.
Dans votre micro, Marie-Paul.
C'est ça.
C'est comme si on minimisait les ressentis de la personne. Or, clairement, il faut tenir compte absolument, quel que soit le bien fondé de ces sentiments négatifs. La personne le ressent, il faut partir de là. On a parlé de respect tout à l'heure.
Oui, c'est ça.
C'est ça qu'il faut prendre en compte.
Oui, c'est respecter le trouble dans lequel la personne se sent, en fait.
C'est venir rejoindre là où est la personne, en fait, et pas là où on voudrait qu'elle soit. C'est vraiment la rejoindre. Et en effet, on n'a pas à venir rationaliser. Enfin, je ne sais pas, j'ai une phobie des araignées. Évidemment, s'il y a une araignée et que Marie-Paul me dit « calme-toi, la petite bête ne mange pas les grosses », ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que je suis dans l'émotion et que du coup... Au contraire, si elle vient me dire, je vois que t'as peur, en fait, je vois que c'est difficile pour toi, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider ? Là, je vais me sentir écoutée et finalement, elle va pouvoir trouver une solution.
Donc là, on a vu ensemble approcher, on a vu écouter activement et sans jugement. Le R ensuite ?
Réconforter et informer. Réconforter, c'est toujours donner l'espoir d'aller mieux. En effet, la santé mentale, les troubles psychiques existent. Comme disait Marie-Paul tout à l'heure, les troubles psychiques, c'est une pathologie. Mais qui dit pathologie, il y a aussi immensément d'associations. On parlait de psychiatres, de psychologues, de médecins, de groupes de pairs, de soutien dans la famille qui existent. Pour finalement faire en sorte que ça aille mieux.
Et c'est aussi dire, t'es pas tout seul.
Déjà, ça existe.
T'es pas tout seul.
Des solutions existent.
C'est ça.
Adaptées. Et on va présenter par la suite différentes formes de. On va donner de l'information. Par exemple, ça existe. Il y a des sites internet qui sont très bien faits. Des chaînes YouTube aussi qui sont très bien faits.
Il y a des professionnels.
Il y a des professionnels, des associations. Il y a le CREPSI. On peut. Il y a différentes associations, on peut aussi aller chercher l'information. C'est ce qui va être important, c'est par la suite, on va donner cette information-là et on va encourager, hein, c'est le deuxième E, encourager à aller vers des professionnels, c'est se dire, il y a des professionnels efficaces qui existent et pouvoir en donner pas forcément que un. Parce que imaginons, si je vous dis, il faut aller voir le psychiatre et que la personne a un mauvais souvenir avec un psychiatre, bah, concrètement, on n'ira pas vers le soin. Mmh. Alors que si on dit, bah, en effet, il y a psychiatres, mais il y a aussi des psychologues, il y a aussi des travailleurs sociaux, il y a aussi des infirmiers, il y a aussi le médecin généraliste.
On ouvre le spectre, en fait. On donne la possibilité de choisir aussi vers qui on a envie d'aller, quoi.
C'est ça. Mmh. Pour que finalement la personne puisse construire, on va dire, son projet de rétablissement, c'est ça, finalement, comme elle l'entend, finalement. Parce que c'est si on imposait quelque chose, bah non, en fait, si je m'entends pas avec mon médecin traitant ou si je m'entends pas avec le psychiatre, bah en fait, il n'y a rien qui va se passer.
Ouais, c'est ça, ça ne changera rien. On aurait eu beau l'envoyer, ça n'aurait rien changé.
C'est ça.
C'est une aide, mais à la fois, on permet à la personne de conserver son pouvoir d'agir.
Oui. Hein. Mmh.
Sans cesse, dans toutes les différentes étapes, c'est la personne qui décide pour elle-même. Donc on
doit
permettre.
On prend pas la décision à sa place, en fait. On accompagne vers une décision prise par la personne.
Pas d'injonction, on donne pas d'ordre.
On vient pas culpabiliser en disant si tu fais pas ça, tu te rends compte. Non, c'est vraiment pour la personne et fait.
D'où ce mot encourager, d'ailleurs. On est vraiment là pour encourager.
Tu ne
reste pas seul. Enfin, il y a plein de choses.
C'est ça.
N'hésite pas. Enfin, vas-y, quoi.
Parce que souvent, il peut y avoir les questions. Enfin, voilà, si je vois un psychiatre, en effet, bah, peut-être que je suis fou, peut-être qu'il va m'interner. Je veux pas d'un traitement. Se dire, ok. La personne est libre de pas vouloir de traitement et de se dire, bah, y a aussi d'autres professionnels qui existent.
Et puis, la dernière lettre, c'est R.
Oui, donc c'est renseigner sur les autres ressources disponibles. Et en effet, les autres ressources disponibles, c'est tout ce qui va être le soutien de la famille, des amis, les différentes associations qui existent. Par la suite, on va dire les ressources d'auto-aide aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet qui peuvent exister. On parlait tout à l'heure, je suis dans le micro-trottoir avec des réseaux sociaux. Il y a aussi des réseaux sociaux. Moi, j'accompagne des personnes qui, finalement, grâce aux réseaux sociaux, peuvent évoquer leur mal-être et sont écoutées par des groupes de pères, des gens qui vivent la même chose. Alors, attention simplement à l'autodiagnostic. Ne pas se dire, parce que finalement, c'est un peu comme tout à chacun. Hein. Si finalement, j'ai mal au bras que je regarde sur le site Internet, je vais tout de suite voir quelque chose de dangereux et du coup ça peut induire certains comportements. Et il y a beaucoup de groupes de pères sur Internet qui fonctionnent très bien et qui permettent aussi aux gens de se rétablir et de pouvoir les accompagner et les encourager aussi finalement à aller voir d'autres professionnels mais aussi des associations.
Oui, de ne pas rester seul en fait.
C'est ça. Enfin, la clé c'est ça. Et souvent quand une personne va moins bien en termes de santé mentale ou un trouble psychique, on voit que la personne va s'isoler. Finalement, c'est une forme aussi de honte pour elle de dire, d'avouer, je mets des gros guillemets, c'est souvent ce que la personne croit, mes faiblesses. C'est souvent ça, mais si je dis ça, je vais être faible, je vais paraître faible, alors que finalement, qu'est-ce que vont dire ma famille, etc. C'est toute l'auto-stigmatisation et le jugement. C'est souvent ce qu'on
alors que quelque
aussi.
Part, c'est une force, justement,
clairement.
Aussi de pouvoir se dire à un moment donné, je me sens fragile. C'est une vraie force, c'est être capable de se regarder soi-même et puis de le dire et de s'affirmer,
c'est
en fait.
C'est ça, ouais.
Revenons un tout petit peu sur alors, on a vu ensemble la méthode ARE, mais vous disiez tout à l'heure, on voit quatre grandes familles de troubles. Est-ce que cette méthode ARE, du coup, on peut l'appliquer à tout, quand on parle de santé mentale, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour tout ce qu'on voit au cours de cette formation, entre autres?
Oui, en tout cas, c'est ce qui est bien construit, en tout cas chez PSSM, on dirait que c'est très anglo-saxon, donc c'est assez cadré. Il y a beaucoup de supports d'activités, de mise en pratique, de vidéos, vraiment, qui à chaque fois va illustrer cette méthode ARE sur les quatre familles de troubles qu'on présente, finalement.
Alors, on va préciser aussi que quand on vient, alors c'est des groupes, je ne sais plus, vous disiez une douzaine de personnes, c'est ça?
Jusqu'à
16 personnes. Il y a beaucoup de petits travaux de groupe aussi pendant ces formations, justement aussi pour pas... C'est difficile, quand on découvre cette formation, c'est des thématiques qu'on aborde qui sont parfois lourdes aussi. On en parlait un petit peu tout à l'heure en préparant l'émission. Ça peut réveiller aussi des choses qu'on a vécues, soi-même ou avec ses proches. Et du coup, c'est intéressant, ce travail en groupe, en collectif, aussi.
Oui, ça permet aussi de pouvoir, déjà en groupe, de passer de manière assez pratique.
Oui.
Parce que le but, c'est pas de faire un long speech pendant deux jours, c'est vraiment d'aller dans la pratique. De se dire, bon, on va essayer, il y a des jeux de rôle, il y a des vidéos, il y a différentes formes d'activités pour vraiment se mettre en pratique et commencer déjà à avoir un peu d'expérience en tant que secouriste. Donc c'est ça qui va être intéressant. Et en effet, c'est une formation qui peut résonner, finalement, quand on présente la formation là, toute personne dans sa vie à rencontrer, soit pour soi, soit dans son entourage, auprès de sa famille et des amis, des personnes qui étaient en situation de souffrance psychique, peut-être qu'il y avait un trouble, et c'est souvent ce qui vient résonner chez les personnes. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un dans ma famille, arrivé ça, ou mon enfant, ou un ami, ça me fait penser à quelqu'un, je sais pas, que j'ai connu dans la classe au lycée.
Mais alors justement, ça me pose une question, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent, j'ai peur que ça éveille des choses chez moi, j'ai pas envie de le faire. Est-ce qu'il faut, ça vaut le coup quand même de venir participer à ces formations? Dites-nous, David, ce que
clairement,
vous en pensez.
Oui. Alors après, on dit ça vient résonner, et souvent c'est plutôt bien si ça résonne dans cette formation-là. Elle est faite aussi pour ça. Nous, derrière, après, en tant que secouriste aussi, on reprend avec la personne aussi. Et on peut aussi, bah, finalement, soit appliquer aérer ou finalement encourager les personnes de dire, mais en fait, finalement, c'est super si ça résonne. Si ça résonne, souvent, c'est des choses qui sont un peu enfouies, qui peuvent peut-être revenir à des moments un peu nous hantés, finalement, de dire, bah, je culpabilise par rapport à une personne, je culpabilise à ça, se dire, bah, ok.
Oui, parce qu'on a pu, effectivement, essayer des choses et puis se dire, mince, j'ai peut-être raté, c'est peut-être moi
qui... Souvent ce que les gens, c'est souvent ce que les gens vont dire. Ils viennent en disant, bah, j'ai essayé ça, ils viennent un peu vérifier, de dire, et c'est super. Souvent, les personnes d'eux-mêmes, ce qu'on disait, avec leur capacité d'écoute, d'empathie et de bienveillance envers les gens, essaient de faire des superbes choses. La formation vient donner un cadre et de se dire, bah, en fait, ce que vous avez fait, c'est super. Et parfois, c'est aussi se dire, c'est super ce que vous avez fait. Après, enfin voilà, la personne, elle a été voir son médecin traitant, son médecin généraliste, son psychiatre, et on passe la main.
Oui, parce qu'encore une fois, on précise bien que le secouriste, il n'est pas là pour soigner ou accompagner vers le rétablissement. Il est là pour mettre en place une première démarche, en fait,
c'est
une
ça.
Première étape.
Pour et permettre après, à la professionnel. Personne, ouais. Pour permettre à la personne, finalement, un premier discours. En tout cas, bah, j'ai remarqué qu'en effet, ça allait moins bien. J'ai l'impression que ça va moins bien. Est-ce que tu peux me rassurer ? Ça permet à la personne de libérer aussi sa parole et de se dire, en fait, bah, je le vois et je m'inquiète pour toi, de pouvoir libérer. Et puis après, de pouvoir, en effet, dessiner la suite, en tout cas, du parcours. Si elle peut, en effet, aller plutôt vers le soin, plutôt vers les associations, pour vraiment faire en sorte que bah, ce qu'elle nous a dit, ça compte et que sa souffrance, on l'entend et que c'est important qu'elle puisse trouver un lieu où ça sera plus satisfaisant pour elle, où finalement elle va se sentir plus libre par la suite de faire son projet de vie et ce que bon lui semble.
Et à la question du justement, si ça me secoue trop, comment ça se passe? Alors j'entends, vous dites, on peut nous aussi dérouler aérer en tant que secouriste, mais il y a aussi, je crois, la possibilité de le faire savoir, c'est ça, pendant la formation?
C'est ça. Alors on le prévient dès le début de la formation, que c'est pas... voilà, c'est... Il peut y avoir des résonances. Et le but, c'est en effet aussi prendre soin des gens qu'on puisse former. Donc si à un moment ça résonne trop, c'est pouvoir aussi s'extraire, sortir un peu, prendre l'air. Alors, on a une petite méthode, c'est finalement ce que je dis souvent aux personnes que je forme. Je dis, alors voilà, si vous avez envie de passer aux toilettes, ne me demandez pas l'autorisation, je ne verrai pas vous dire non. Enfin, concrètement, non, vous restez là. Non, c'est simplement dire, bah, vous y allez, mais simplement vous mettez un pouce en l'air.
Ouais,
moi, ça
me
permet de me rassurer. Par contre, en effet, si à un moment c'est trop lourd et que vous avez besoin de vous extraire, vous avez bien le droit de vous extraire. Par contre, vous pouvez sortir et faire un pouce vers le bas.
Et comme ça, on sait.
Comme ça, nous, on sait. Puis après, on peut reprendre, on peut aller voir la personne et pouvoir se dire, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu souhaites en parler?
Je dois le dire, encore une fois, j'ai eu l'immense plaisir de faire cette formation, de suivre cette formation, et j'encourage toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce matin à la faire. Il y a quand même des moments qui peuvent être un petit peu difficiles. Il y a un jeu de rôle. Notamment sur le suicide qui peut appeler des résonances. Pour l'avoir vécu moi-même, j'ai demandé à ce qu'on arrête l'exercice à un moment donné parce que j'y arrivais plus. Et pour autant, c'est extrêmement intéressant de le vivre quand même. Là, je vais vous parler de mon expérience, mais c'est vrai que suite à cette formation que j'ai faite au mois de décembre, j'ai déjà appliqué 2 ou 3 fois cette méthode aérée qui m'a été d'une utilité remarquable. Et quand on parle du suicide, parce que c'est quand même souvent quelque chose de sous-jacent à beaucoup de troubles mentaux ou psychiques, ce risque d'aller jusqu'au suicide, on se rend compte que c'est extrêmement important de le poser sur la table à un moment donné.
Oui, parce que souvent, c'est... Déjà, c'est des questions, en effet, quand on arrive, je crois que c'est l'après-midi, quand on commence à intervenir sur cette situation de crise. Donc, il est lié aux troubles dépressifs, mais pas que, en effet, donc on va l'évoquer. On sait que ça va résonner et que ça résonne chez tout le monde parce que l'idée de décéder par suicide vient tous nous impacter. On remet tous, on va dire, à notre état d'être humain, quand bien même nos diplômes, quand bien même notre situation. Et en effet, c'est quelque chose qui peut être... qui peut assez fortement résonner. Et c'est bien que ça puisse finalement résonner, pour qu'on puisse finalement exprimer finalement cette méthode et le fait, en fait, de poser les mots sur finalement, est-ce que tu as envie de mourir, est-ce que tu as envie de te suicider.
Je vous donne la parole juste après, Marie-Paul, mais juste une petite réaction par rapport à ça, et après je vous donne la parole, mais c'est pas parce qu'on dit est-ce que tu as déjà eu envie de te suicider ou est-ce que tu penses à te suicider que la personne, on va l'accompagner à passer à l'acte, bien au contraire.
C'est ça. Il y a aussi pas mal de croyances, et on vient aussi lutter contre certaines de ces croyances.
C'est ce que je voulais dire aussi. Dans le programme de formation PSSM, le passage sur la formation au risque de suicide, on prend vraiment le temps d'en parler pour justement lutter contre ce que vous venez de mentionner, les idées reçues. Vous aussi, à savoir, c'est pas parce qu'on en parle qu'on demande à la personne, qu'elle va se dire « Ah bah oui, tiens, ça serait une solution. Elle ne vous a pas attendu pour y penser tout seul. » Et votre travail, ça va justement être d'extraire cette intention éventuelle de la personne et qu'on puisse mettre des mots sur les choses. Mettre des mots sur les choses, ça permet quand même de réduire un petit peu leur, leur caractère menaçant et fort. Donc voilà... on fait faire l'exercice aux gens de prononcer, de mettre le mot suicide dans leur bouche, hein, face à la personne fragile, arriver à passer ça. Parce que pour le secouriste, il ne s'agit pas d'être juste gentil, puis de lui dire, voilà, je m'inquiète pour toi, raconte-moi ce qui ne va pas. Mais là, c'est vraiment quelque chose de... C'est peut-être le moment le plus difficile dans la formation.
On va devoir mettre un terme à cette émission. Déjà, on aurait eu des... Moi, j'aurais eu envie qu'on parle encore des heures et des heures de cette formation, qu'on vous encourage très très vivement à suivre. Je montre aussi ce petit livre, je sais pas si, j'espère que la caméra le voit, mais alors il est plus de cette couleur là celui-là c'est le plus ancien, même si le livre à l'intérieur reste exactement le même, on repart, chaque stagiaire repart avec un guide, un livre qu'on vient picorer quand on a besoin effectivement de façon régulière, et le petit marque-page qui reprend la méthode aérée. Si on veut suivre cette formation, on s'adresse à qui, comment est-ce qu'on peut venir la suivre, est-ce que quelqu'un peut peut-être nous donner vite fait cette information?
Ce que disait Marie-Paul tout à l'heure, hein, donc il y a le site PSSM France sur lequel en effet où tous les formateurs sont classés au niveau régional et avec leurs coordonnées. Après, si c'est plus au niveau de Nancy, bah du coup il y a le CPN qui forme dans le cadre du PTSN, donc plan territorial en santé mentale. Il y a aussi du coup l'association Esport 54.
Et il y a aussi des formateurs indépendants.
Et il y a des formateurs
donc,
aussi indépendants.
Donc en fait, je pense que le détail que les gens doivent retenir, c'est le site sur internet, PSSM, donc pssm.fr.
PSSM.fr, allez-y nombreux, ça signifie premier secours en santé mentale. Plus il y aura de gens formés, plus on évitera des situations difficiles quand on parle en santé mentale. Merci à tous les trois d'être venus, merci David de nous avoir parlé de votre expérience de formateur. Merci Marie-Paul, merci Solène.
Merci Thomas.
Et on se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro de Full Santé Mentale. On parlera handicap visible et invisible.
C'est ça.
Je vous donne le programme. À très bientôt sur RCN.